Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Les fake news ont toujours existé, mais leur diffusion s'est démultipliée avec l'apparition du web et des médias sociaux. La désinformation est souvent utilisée à des fins politiques et de nombreux journalistes et médias sont politisés. La lutte contre les fausses nouvelles et informations biaisées ou tendancieuses est complexe et une vérification fiable des faits n'est pas toujours évidente sur la toile où des informations erronées peuvent être partagées indéfiniment sur les réseaux sociaux, voire même reprises par certains médias. Alors quelles sont les réponses à apporter à la désinformation? Quelles sont les conséquences de la diffusion de fausses nouvelles ou informations partisanes? Faut-il éduquer selon vous le public sur l'utilisation des médias en ligne? Nous avons comme invité pour en parler Julie Owono, qui est directrice d'Internet sans frontières. Julie, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, merci Nathalie, très heureuse d'être là.
C'est un plaisir pour nous et nous avons Dr Yacine Diagne, qui est enseignante chercheuse en sciences et techniques de l'information au CESTI, à l'université Cheikhanta Diop à Dakar. Yacine, comment allez-vous?
Bonjour Julie, bonjour Nathalie, excusez-moi, ça va et je dis bonjour également à Julie et je suis très ravie d'être avec vous cet après-midi.
Nous aussi, docteur Yacine. Alors mesdames, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous, docteur. Quelles sont, en bref, les conséquences de la diffusion de fausses nouvelles ou informations partisanes?
Merci Julie, vous l'avez dit tout à l'heure, la désinformation, c'est pas une nouveauté, mais c'est la vitesse qui est nouvelle et les outils par lesquels ces désinformations-là passent. Parce qu'avant, on nous parlait de propagande, mais en politique, ça a toujours existé. On se rappelle aussi des charniers de Timi Sowara qui avait donné un coup dur aux médias occidentaux en 1989. Tout ça, ce sont des souvenirs qui sont encore là. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la désinformation est devenue un danger pour les journalistes, pour les médias dits classiques, comme la radio, la télévision ou la presse écrite. Et ça a pour conséquence le manque, l'absence de confiance du public vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des médias. En tout cas, ce qu'on constate d'une manière générale et ce qu'on constate de plus en plus au Sénégal, que je maîtrise très bien. Donc ça fait partie des conséquences de cette désinformation-là qui est de plus en plus présente dans l'espace public sénégalais et dans l'espace politique sénégalais, et ce qui entraîne la politisation de certains journalistes et de certains médias. Nous allons certainement y revenir dans les discussions.
Docteur Yacine, oui, effectivement, on va y revenir. Julie Owono, alors vous êtes directrice d'Internet sans frontières. Vous travaillez vraiment pour la liberté d'expression. Alors, comment faire un petit peu la balance entre la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation, hein? C'est un sujet assez d'actualité, justement, sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, quelle réponse apporter sans nuire à la liberté d'expression?
Oui, je crois que ce qui est important pour faire cette balance nécessaire entre la liberté d'expression et la liberté d'accéder à de l'information qui sont liées, je crois que pour faire la balance, il faut absolument définir et circonscrire les termes dont on parle. Quand on parle de fausses informations, il faut se rappeler qui sont les premiers, historiquement, enfin dans l'histoire récente, à avoir apporté ce concept dans les conversations mainstream. C'était l'ancien président américain Donald Trump. Et il faut se rappeler que lorsqu'il utilisait ce terme-là, ce n'était pas nécessairement pour faire référence à des informations qui étaient effectivement fausses, c'est-à-dire qui n'étaient pas factuellement justes, mais c'était une référence à des informations qui ne, avec lesquelles son pouvoir n'était pas confortable. Et on retrouve cette pratique pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, hein, en tout cas à cette époque-là, mais dans beaucoup de pays, y compris beaucoup de pays africains. Et pourquoi ça devient un défi? C'est parce que, justement, grâce à Internet et grâce à la liberté d'expression permise par ce nouveau média et ce nouvel espace d'expression, mais aussi la liberté d'accéder à une information qui n'est pas nécessairement contrôlée par des autorités centrales étatiques, ce qui était le cas dans beaucoup de pays africains. Évidemment, ça peut faire peur à certains détenteurs de pouvoir qui vont se servir du concept de fausse nouvelle pour, en fait, emprisonner des journalistes, par exemple, emprisonner des blogueurs qui vont faire des publications sur les réseaux sociaux. Nous l'avons vu beaucoup, nous avons défendu beaucoup de gens qui se trouvaient dans cette situation, de professionnels qui se trouvaient dans cette situation. Donc c'est pour ça qu'il me paraît extrêmement important, d'un point de vue démocratique et de protection des libertés, de définir et de circonscrire strictement ce qu'on entend par désinformation. La définition que nous, Internet sans frontières, nous retenons, c'est que la désinformation est un acte volontaire par des acteurs du réseau Internet de diffuser des informations dans le but de nuire. Pour nous, cette définition est extrêmement importante. L'intention de nuire est extrêmement nécessaire à prendre en compte pour distinguer les informations sur lesquelles, si on voit par exemple la crise du Covid, par exemple, il y a eu beaucoup de débats sur porter le masque, pas porter le masque, les effets secondaires du vaccin allégués, etc. Et on se rend compte dans beaucoup de ces débats-là que des informations qui étaient considérées comme fausses il y a 3 mois, 1 an, 2 ans, sont aujourd'hui l'objet de débats scientifiques et peut-être de nouvelles découvertes. Donc pour nous, la manière de faire la meilleure balance, c'est d'une part de définir très strictement ce que l'on entend par la fausse information et ne même pas utiliser ce terme qui lui-même a été utilisé par des pouvoirs répressifs pour museler l'expression, mais d'être précis et de protéger, d'avoir toujours comme principe la protection des personnes d'expression.
Alors Julie, on a bien compris l'autre côté de la médaille en quelque sorte sur cette question des fausses informations, de la propagande. Je reviens vers Dr Yacine Diaye. Parlons de la politisation des journalistes. On sait vraiment que c'est dans le monde entier. Et cependant, ce n'est pas donné à tous, à tout lecteur ou tout auditeur de remarquer qu'un journaliste ou qu'un média est politisé. On a aussi les problèmes de dénigrement, de calomnie, de règlement de compte. Donc, de quel œil voyez-vous cela et quelles sont les réponses à y apporter? Si vous pouvez citer quelques exemples.
Oui, je pense d'abord que la définition que Julie a donnée, c'est la définition universelle, hein, parce qu'il y en a d'autres chercheurs qui parlent de mésinformation, de malinformation, et tout ça, on en parle. Mais le problème qui se pose et qui est réel aujourd'hui, c'est pas pour lutter contre la liberté d'expression, mais il faut faire attention quand même. Il faut savoir en faire bon usage des réseaux sociaux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, les journalistes sont acteurs de cette désinformation, entre guillemets, comme vous voulez. Mais pourquoi sont-ils acteurs? Parce que les journalistes ne prennent plus la peine de vérifier les faits avant de les publier, mais ils publient et ils vérifient après en se disant le droit de réponse existe. Ce qui n'était pas le cas avant. Un journaliste avait honte de diffuser une information qui est fausse et de donner un droit de réponse. Ça, c'est une problématique qui se pose aujourd'hui, en tout cas dans nos pays en Afrique. Autre problème qui se pose quand un influenceur ou un activiste donne une information et se dit journaliste et il sait qu'il n'est pas journaliste parce qu'il ne fait pas ce travail de vérification-là de l'information. Il donne l'information comme ça. L'information, elle est fausse, elle est réelle. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais ça peut en tout cas entraîner des émeutes. Nous l'avons vu au Sénégal au mois de mars, il y a 2 ans de cela. Parce qu'il y a des influenceurs qui vivent à l'étranger et qui appellent à l'insurrection, qui appelle les jeunes à l'insurrection parce qu'en politique, a des problèmes avec une jeune fille qui l'accuse de viol. Est-ce qu'il l'accuse? Je pèse bien mes mots parce que l'affaire n'est pas encore jugée. Donc, on ne sait pas si elle a tort ou elle a raison. Mais le fait de prendre part, le fait de demander à des gens d'aller à l'insurrection et parce que nous assistons aujourd'hui à la fatigue informationnelle, Et tout ça est lié à justement cette liberté d'expression que nous réclamons haut, haut et fort. Et tout le monde a droit à la parole, tout le monde se dit journaliste, tout le monde a le. Les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. Mais l'information, maintenant, tout le monde peut la diffuser sans se rendre compte des dangers qu'ils peuvent entraîner, que cette diffusion peut entraîner dans l'espace public africain ou ailleurs.
Alors, Julie Owono, je vais revenir vers vous après. On va écouter peut-être la réflexion de deux de nos auditeurs. Tout d'abord, écoutons celle de Jonathan Chiswaka. Il est en République démocratique du Congo.
La divulgation des mauvaises informations sont un grand fléau. La plupart des peuples sont toujours sous-informés. Par exemple, ici au Congo, c'est la mauvaise information qui passe facilement par rapport à la bonne information. La bonne information n'est pas toujours la mieux suivie. Et pour cela, il faut éduquer la population à savoir reconnaître une fausse information et à ne pas la partager. Les fake news sont des mauvaises choses qui tuent notre société.
On écoute tout de suite Youssouf Ouedraogo qui est en Côte d'Ivoire.
Bonjour à toute l'équipe de VOA Afrique, aux invités et à tous ceux qui sont à l'écoute. Moi, je pense que d'un point de vue stratégique, l'unique réponse à la désinformation est d'être dans l'action, c'est-à-dire prendre les devants de la communication. Ce qui veut dire sortir du cycle de réaction qui est souvent source d'amplification des fausses informations. Anticiper et prendre donc les devants de la communication, je pense que c'est aussi une meilleure façon d'éduquer sur l'utilisation des médias en matière donc de communication qui, pour nous, répondent à un besoin capital pour l'Afrique. Alors, on a commencé à pointer du doigt les fake news dès lors que la liberté d'expression a commencé à travers donc les réseaux sociaux, a commencé à échapper au vocabulaire de nos dirigeants dans cette Afrique des libertés muselées, limitées ou quasi inexistantes. Mais l'autre réalité aussi est que la défaillance dans le cas espèce n'est pas spécifique aux réseaux sociaux. Alors, je dirais pour finir, à tout utilisateur des médias sociaux ou les médias de communication, d'avoir, n'est-ce pas, des objectifs assumés. C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi nous sommes là et pour quel but précis. C'est très important que chacun de nous soit vraiment responsable. Merci infiniment et bonne suite à la radio VOA.
Alors Julie Owono, quelles sont les réponses et les outils face à la désinformation, hein, notamment au niveau des réseaux sociaux? Quels sont les mécanismes que vous proposez? Bon, hormis le fait de supprimer, hein, d'interdire, hein, comme on connaît certains cas, certaines personnes des réseaux sociaux, quels sont les autres mécanismes à préconiser?
Je crois que ce que vos auditeurs évoquaient, ce sont des pistes très très pertinentes. Quand il s'agit de l'environnement informationnel, c'est de ça dont il est question, tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas que moi individuellement, il n'y a pas que... Tout le monde a un rôle à jouer. Tout d'abord, quels sont les taux d'alphabétisation informationnelle en Afrique? Combien de programmes d'alphabétisation sur l'information existent? Combien de programmes existent dans les lycées pour reconnaître, pour savoir lire et recevoir une information sur Internet? C'est pas quelque chose de facile, mais pourtant on le fait tous les jours sans avoir je vais pas dire la formation, mais sans avoir les outils pour pouvoir le faire, y compris même les experts de l'information. Je veux dire, c'est un environnement, c'est un écosystème qui évolue tellement rapidement. Mmh. On parle aujourd'hui des informations sur les plateformes sociales. Demain, hein, avec l'intelligence artificielle, on aura bientôt des vidéos complètement montées qui vont nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, je pense que il faut reconnaître le fait que c'est un problème sociétal et c'est une responsabilité sociétale. D'abord, les États doivent créer un environnement informationnel dans lequel les citoyens ont accès à une information, dans lequel les citoyens ont la communication qui émane de leurs autorités. Ça, c'est un problème dont on ne parle pas assez souvent. Mais juste avant l'avènement des réseaux sociaux, c'était très rare d'avoir une parole publique dans beaucoup de pays africains. Deuxième chose, la responsabilité des plateformes sociales, des plateformes des réseaux sociaux. Bien sûr, elle est énorme, et a fortiori en Afrique, où les garde-fous qui peuvent exister, les garde-fous institutionnels qui peuvent exister dans des sociétés plus, démocratiquement plus, plus complexe, on peut le dire, que celle que l'on peut connaître dans certains pays africains, institutionnellement plus complexe. Il y a moins de garde-fous dans beaucoup de pays africains. Donc il faut impérativement que ces plateformes sociales-là ne viennent pas simplement et disent « Oh, vous avez accès à des réseaux, vous avez accès à l'information, vous faites ce que vous voulez ». Non, c'est pas vrai. Ces plateformes sociales, du point de vue d'Internet sans frontières, et c'est ce que nous leur disons à chaque fois, elles ont la responsabilité d'accompagner aussi le public, leurs utilisateurs, dans la réception de cette information-là. Et ça passe par quoi ? Ça passe par des programmes de formation. Nous en avons fait avec des plateformes. Nous avons fait des partenariats avec des plateformes pour essayer de diffuser des outils de reconnaissance, de réception d'informations sur les réseaux sociaux. Mais ça commence et ça continue avec l'obligation pour ces plateformes-là d'être très claires dans leurs règles. On ne change pas. Aujourd'hui, ce qu'il y a des informations... Enfin, il faut être clair. Il faut dire ce qui est possible ou pas d'écrire sur les plateformes sociales. Et il faut expliquer aux utilisateurs ce qui est possible ou pas d'écrire et de partager sur les plateformes sociales. Et troisième acteur, évidemment, c'est la société civile et les utilisateurs eux-mêmes. Nous avons des droits, bien sûr, droit à la liberté d'expression. Je suis une fervente défenseuse et je pense que c'est le principe fondamental. Mais néanmoins, effectivement, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de ne pas inciter à la haine. Nous avons une responsabilité de ne pas partager dans l'intention de nuire des informations qui sont montées de toutes pièces, qui ne sont pas factuellement exactes. Nous avons la responsabilité d'amener le message que nous voulons porter, parce que l'on sait aujourd'hui que ce message-là porte potentiellement à des milliers, voire des millions d'utilisateurs, que ce soit dans votre pays, même au-delà des frontières. Donc c'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble d'acteurs qui font que ce problème de désinformation doit d'abord être un problème géré par la société dans son ensemble. Moi, je trouve ça injuste de mettre toute la responsabilité sur l'utilisateur. Je veux dire, ce n'est pas l'utilisateur qui a la maîtrise des règles sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas juste non plus de mettre toute la responsabilité sur les plateformes, comme ce n'est pas juste non plus de dire que tout est de la faute de l'État. Tout le monde a un rôle à jouer.
Merci Julie. Docteur Yacine Diagne, la responsabilité des uns et des autres. Toutefois, tout le monde n'a pas le réflexe de vérifier des informations. On est lecteur, on est auditeur, on prend les infos comme elles viennent. S'il faut encore perdre son temps, j'ai envie de dire, pour aller vérifier un peu partout si l'information est exacte, ça devient un petit peu complexe en quelque sorte. Donc, quels sont les réflexes simples à avoir que vous pourriez conseiller ? Vous faites des formations de journalisme, mais aussi pour, encore une fois, l'utilisateur, pour que l'utilisateur soit protégé contre cette désinformation.
Nous avons, ce que nous mettons en place au CESPI, c'est l'éducation aux médias et à l'information, parce que pour nous c'est très important. Et cette éducation aux médias et à l'information concerne aussi bien les journalistes apprenants que le public, parce que cette éducation à l'information et aux médias permettra au public de minimiser les effets qui sont néfastes du numérique. Et les amener à en faire un usage judicieux. Donc, ce que nous leur disons, en très peu de mots, nous leur donnons quelques astuces pour la vérification de cette information-là, c'est l'analyse. D'abord, entrer dans les détails. Quand vous avez une image, une information, le mieux, c'est d'analyser le titre et voir la légitimité du site, parce qu'il y a énormément de sites et qui le dit. Et pourquoi? Parce qu'un journaliste, quand il donne une information, il doit donner cette information-là sans avoir aucun intérêt. Donc, c'est tout à fait l'opposé de l'influenceur qui va donner une information parce qu'il y a des intérêts qui se cachent derrière. Donc, ça, c'est important pour le journaliste et le public de le comprendre. L'autre chose, c'est essayer de vérifier la viabilité, la fiabilité de la source. La crédibilité. Il y a énormément de sites aujourd'hui en Afrique, de sites d'information, mais est-ce que ces sites sont fiables? Ça, c'est important. La troisième chose, c'est de privilégier les sources qui sont reconnues. Quand je parle de sources reconnues, ce sont les organismes gouvernementaux ou internationaux ou les revues scientifiques. Il y a des revues scientifiques. Par exemple, Julie parlait tout à l'heure du Covid, mais pendant le Covid, nous avons entendu des gens qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas spécialistes, nous parler du vaccin ou autre chose. Alors qu'il y avait des travaux scientifiques, on peut se baser sur, s'appuyer sur ces travaux scientifiques-là. Autre chose, c'est de varier les sources d'information. Quand vous avez un article qui est publié ou un influenceur qui fait un live sur les réseaux sociaux, allez vérifier si l'information qu'il donne, vous pouvez retrouver ça sur un autre site ou, qui est légitime ou qui est fiable. Légitime, c'est trop fort le mot, mais qui est fiable, qui donne la même information et de la même manière. Ça, c'est important. Donc, nous, au CESTI, nous mettons l'accent sur le fact-checking pour les journalistes et sur l'éducation aux médias et à l'information qu'on essaie de généraliser.
Julie Owono, vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Alors ça, ça fera l'objet d'un autre débat, hein, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. On est en plein dedans, ça commence, et on a même des journalistes qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, si c'est pas déjà le cas. Et ça présente peut-être des avantages, mais beaucoup de dangers. Au niveau des photos, des vidéos justement, des trucages sur les réseaux sociaux, moi je me mets du côté de l'utilisateur encore une fois. Hein. Quelles sont les garanties pour l'utilisateur là aussi pour vérifier que cette photo, que cette vidéo ne soit pas un trucage, ce qui n'est pas toujours évident encore une fois.
Oui, non, c'est pas du tout évident. Bon, néanmoins, il existe des moyens et la recherche pour contrer la manipulation par l'image numérique, les recherches s'accélèrent presque aussi rapidement que les outils ne sortent. Si vous prenez par exemple la question, il y a différentes manières de retrouver une information juste quand il s'agit de chaque média. Pour des photos, vous pouvez faire une recherche inversée sur Google, prendre la photo, la mettre sur Google et voir où est-ce que cette photo, si cette photo est déjà apparue par exemple, dans d'autres résultats et dans quel cas cette photo est déjà apparue. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos, donc des images qui mouvantes, hein, des vidéos ou alors même parfois avec de l'audio, dans lesquelles on fait dire le plus connu aujourd'hui, c'est le cas l'ancien président Obama qui a une vidéo dans laquelle on le voit en train de dire du mal de son successeur, l'ancien président Trump. Dans cette vidéo, n'était pas un vrai, hein, c'était un fake qui avait été fait à dessein pour montrer justement ce qui était possible avec l'intelligence artificielle. Et là aussi, il y a de plus en plus d'outils qui sont développés par les chercheurs pour essayer d'identifier les éléments faux qui ont été ajoutés sur une vidéo qui préexistait. Mais évidemment, l'innovation va tellement rapidement, et on le voit avec les outils tels que ChatGPT. Comment fonctionnent ces outils? Ce sont en fait des outils qui s'imprègnent des données qui existent et que nous produisons par milliards toutes les secondes, voilà, dans le monde. Et donc, plus ces données-là existent, plus la machine, l'intelligence artificielle, plus elle s'en nourrit et plus elle devient complexe et elle est capable de produire des contenus qui sont eux-mêmes beaucoup plus complexes. Donc, il faut continuer à faire de la recherche dessus. Internet sans frontières participe à des programmes de recherche pour aider à trouver des outils justement qui permettent d'identifier la manipulation sur les images mouvantes, donc des vidéos, mais aussi sur les photos. Nous travaillons avec des organisations comme Witness qui fait beaucoup de travail sur ces questions de deepfake, mais il faut être extrêmement vigilant. Et c'est pour ça que des organisations internationales telles que l'UNESCO, par exemple, ont fait adopter en 2021, je crois, le premier texte international sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut qu'on mette des principes éthiques qui empêchent en fait aux innovateurs de mettre sur le marché des outils qui n'ont pas, enfin, qui sont dangereux, tout simplement. Et voilà. Donc on est en plein dans cette ère là. Mais je pense que c'est important dès aujourd'hui, d'une part, de continuer la recherche, bien sûr, pour qu'elle avance aussi vite que l'innovation elle-même, mais bien sûr, de continuer ce que l'on fait, parce que quand on parle de désinformation, ce sont des problèmes de société dont on parle. On ne parle pas, ça, c'est pas la technologie qui apporte tout ça, hein. Et en ce sens, ce qui était dit en introduction était absolument vrai, c'est pas nouveau. Mais nous devons aussi régler nos problèmes de société, régler les questions d'éducation aux médias, on en a parlé, régler les questions de financement des médias aussi, parce que c'est lié. Quel média a intérêt à avoir du clic en diffusant des fausses informations. Bah, des médias qui ont du mal à survivre économiquement. Ça, c'est une vraie question de société qui peut se poser. Quel est le modèle international que l'on va proposer?
Julie Owono, on est obligé de s'arrêter là. On arrive au terme de l'émission. C'était Julie Owono avec nous, directrice d'Internet sans frontières. On avait le docteur Yacine Diagne, qui est enseignante-chercheuse au CESTI à Dakar. C'était Nathalie Barge avec vous pour À votre avis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À la production, c'était Georges Léonard Sagnot. La suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et très bon courage.